Donc bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast.
Aujourd'hui, sur le Learn and Earn Crypto Podcast, on va parler d'un sujet absolument incroyable. Mais avant ça, on a encore monsieur Mathieu avec nous.
Merci pour l'accueil. Merci, c'est très bien.
Donc, comme vous
t'es
savez...
encore revenu à Montréal. Mais qu'est-ce qui se passe?
Toutes les semaines.
Comme vous savez déjà, nous ne sommes pas conseillers financiers. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseiller financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyser des décisions. Les investissements et le trading ne sont pas. Les investissements et le trading sont risqués. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Attention, il y a des pages Instagram, Facebook et tout ça qui essayent de faire des scams. On va jamais vous demander de l'argent pour envoyer dans des trucs spéciaux, bizarres, je sais pas trop quoi. Donc sur ce, on commence l'épisode avec un...
Yes!
Alright. So, aujourd'hui, on parle de sécurité, de frais, d'échange, de décentralisation, ce qui vient très bien avec le dernier sujet où on a parlé de Binance et de ce qui se passe. Yeah. Mm. Si vous n'avez pas écouté le dernier épisode...
Va l'écouter!
Voilà. Va l'écouter!
Bien dit.
Ça va ouvrir ton cerveau et tes horizons.
Ouais.
Donc, qui veut commencer?
Mathieu, vas-y, on Mathieu, place la
Mathieu,
parole.
Vas-y,
non, mais pour vrai, c'est super intéressant parce que ça va faire une belle suite parce qu'on disait que je te laisse commencer après. En fait, c'est moi qui commence.
On disait que vas-y, commence, mais bon.
Non, mais on parlait des ETF, que les gens, ils vont aller plus vers les ETF avec leur confiance qu'ils ont perdue envers Binance puis envers les échanges. En tout cas, les gens qui connaissent pas nécessairement comment bien se décentraliser, comment bien conserver leurs assets. Mais je pense que c'est un peu le sujet qu'on veut aborder aujourd'hui. Tu sais, comment vraiment bien se décentraliser, comment être sécuritaire, comment maximiser ou plutôt éviter de payer trop de frais, parce que c'est quelque chose
quand
que...
décentraliser, les frais, ils augmentent. Hein?
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu détiens quand même le asset versus si tu t'en vas vers les ETF, ben, tu détiens que
les échanges.
Ouais.
Je pense qu'avant de comprendre pourquoi est-ce que c'est important de sortir des exchanges centralisés et d'aller vers la décentralisation, je crois qu'il est assez important également de comprendre pourquoi est-ce que obligatoirement presque on devrait le faire.
Parce que
déjà.
Parce qu'on te l'a dit.
Parce que ouais, mais on va l'expliquer. L'idée ici, c'est de comprendre la phrase « not your key, not your coin », elle est bonne pour toute la crypto. Quand on parle... Je pense qu'on pourrait détourner le sujet avec l'argent classique, fiduciaire classique. Je pense que ça fera plus... ce sera plus visuel pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas encore dans ce monde-là. Dans certains pays, tu as eu beau avoir 100 000 balles sur ton compte, tu allais à ton guichet, tu pouvais partir ton argent. Mm. Dans certains pays, tu peux sortir par exemple, et c'est encore le cas actuellement malheureusement, tu peux sortir par exemple une certaine somme d'argent journalière, tout simplement parce que l'argent que tu détiens est lié au gouvernement qui dirige le pays par rapport à leur propre banque qui va imprimer l'argent, etc., etc., etc. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est que ça a beau être ton argent sur ton compte bancaire, c'est pas forcément de l'argent que tu vas pouvoir retirer comme bon te semble. Pourquoi est-ce que je voulais amener ce sujet-là, on va dire plus global, avant de parler de Not Your Key, Not Your Coin et de la décentralisation? C'est que c'est le même principe avec les échanges centralisés et dès lors que tu détiens pas réellement ton argent. Tu as beau avoir 1000, 10 000, 100 000 balles sur un compte, Binance, Kraken, peu
mais
importe.
Regarde, il y a des gens qui avaient, pour faire un exemple sur ton exemple, ton explication, il y a des gens qui avaient des dizaines de millions de dollars sur FTX. FTX a fermé, ils sont où ces dizaines de millions? Disparus, parce qu'ils ne les possédaient pas. En fait, même ce que FTX a fait, c'est que, exemple, toi, tu allais acheter 10 bitcoins, mais ils n'avaient même pas acheté le 10 bitcoins. Sauf so, quand tu achetais 10 bitcoins, eux, sur le site web, ils te montraient, tu es sur leur site web, donc ils te montraient comme quoi tu avais 10 bitcoins dans le portfolio, mais ils n'avaient jamais acheté ces 10 bitcoins. Donc, en gros, c'est comme maintenant ton argent qui est basé sur rien parce que c'est plus sur le standard de l'or. Mais là, c'est la même chose. Tes bitcoins étaient basés sur rien parce qu'ils ont même pas acheté les bitcoins. Et quand tout a crash, ben, ils ne pouvaient pas redonner l'argent aux gens parce qu'ils l'avaient pas. Ils prenaient l'argent, mais toi, tu avais l'impression d'avoir tes 10 bitcoins. Tu avais l'impression de pouvoir l'envoyer d'un endroit à l'autre. Et quand ça a crash et que tu as essayé de les sortir, ben, c'est pas possible. parce qu'ils sont pas là.
C'est exactement ça. C'est un peu le même principe qu'à l'époque, nos ancêtres, quand il n'y avait pas les banques, quand il n'y avait pas toutes ces choses-là, ils mettaient l'argent sous l'oreiller ou dans une cave, dans un coffre-fort, etc.
Dans c'était la terre.
Dans la terre, exactement. C'était des billets, parce que c'était physique. C'était des billets, c'était physique. Bon, on va pas aller sur le sujet des billets, mais c'était...
Ouais,
c'était
parce que là, en fait... Non.
c'était physique. Personne, à l'époque, se serait dit, je vais mettre tout mon argent quelque part dans une même entité qui va garder mon argent et qui va le gérer pour moi-même. Ce serait jamais arrivé. Au fur et à mesure du temps, on a fait en sorte que les billets soient de moins en moins utilisés et vont être de moins en moins utilisés aussi. Et on est passé, pour la plupart du temps, sur des lignes de chiffres sur un compte bancaire. Donc, on a déjà fait cette transition-là par rapport à l'argent sous l'oreiller vers des chiffres sur une ligne de compte, etc. Et l'idée ici, c'est que tant que tu le vois sur ton compte bancaire et tant que c'est qu'une ligne que tu regardes, c'est pas véritablement ton argent. Je crois qu'on avait déjà dit sur un des podcasts, mais imaginons que tu as 100 000 balles sur ton compte bancaire et que tu vas voir ta banque et tu demandes 100 000 balles pour retirer. Déjà, ils vont te demander pourquoi est-ce que tu vas le retirer.
T'as même pas besoin d'aller aussi loin que ça. Dernièrement, je suis allé à la banque pour retirer 5 000 balles et j'ai pas pu.
Je savais que t'allais dire ça, c'est pour ça que je ris.
Non, mais c'est vrai.
Avant, pourtant, c'est ton argent.
Avant qu'on aille à UPW et tout, je voulais aller retirer pour différentes choses. Et quand j'ai essayé d'aller retirer les 5 000 balles, j'ai pas pu. Et j'ai dit à la femme, 5 000 dollars canadiens, là. Je vais pas dire la banque, mais on dirait acheter comme OK, mais. Même pas.
100%.
C'est plus gros. C'est plus gros que la caisse. Et je suis allé et j'ai dit, bah, combien tu peux me donner maintenant? Elle dit, ben moi ici, je peux te donner 2800. Ouais, 2800. Mais elle a dit, si tu veux, après, tu peux essayer d'aller à l'ATM puis sortir l'autre 2200. Comme ça, tu vas avoir ton 5000. J'ai dit, attends, pour avoir 5000 dollars dans une des plus grosses banques au Canada, j'ai besoin de te prendre 2800 ici, ensuite aller espérer au Gap, au guichet pour sortir. Ils n'avaient même pas 5000 balles cash.
C'est insane.
Incroyable.
C'est insane. Wow.
Donc, tu n'as même pas besoin d'aller à 100 000. Tu es au Canada. Et ça, pour vous faire tous peur, ceux qui sont en France et en Belgique, si vous pensez, mon Dieu, le Canada, ils ont de la misère, vous allez savoir que le Canada, c'est le pays avec le système bancaire le plus fort, un des systèmes bancaires les plus forts de la planète. Lors de la Grande Dépression et de 2008 et tout ça, quand il y a plus de 140 banques et institutions dans le monde qui ont fermé et fait faillite, il n'y a jamais aucune banque et institution financière au Canada qui a fermé ou fait faillite. Et la plupart d'entre eux, ils ont 100, 150 ans, 200 ans. Donc, c'est un des systèmes bancaires les plus solides au monde. Donc, si ça, c'est au Canada, ben, je vous laisse voir.
Et que toi, t'arrives pas à retirer 5000 balles ici.
Alors, je vous laisse voir ailleurs.
Mais on en a pas énormément non plus. C'est pas comme aux États-Unis qui ont des petites banques de villes puis ainsi
non,
de suite.
Ça.
Ici, on
nous,
a
c'est
quoi,
des grosses
5,
banques.
6,
mais
peut-être,
c'est 5, 6 énormes banques qui sont là depuis super longtemps, qui ont jamais fait faillite, qui ont passé à travers la Grande Dépression, qui ont passé à travers les crises des fins des années 90, qui ont passé à travers plusieurs guerres, qui ont passé à travers 2008. Et maintenant, ils peuvent pas te donner 5000 balles.
Ça fait aucun sens.
C'est chaud, hein?
Ça fait juste aucun sens. Donc, si on base sur ce principe-là que ton argent qui est sur un compte bancaire que tu regardes et que tu peux visualiser, quand tu vas à ta caisse ou à ta banque, t'arrives même pas à retirer 5000 balles comme ça m'a pas pu le faire récemment. Est-ce que tu crois réellement que le jour où il y a une problématique, une guerre, une crise économique, peu importe la crise que tu vas avoir, tu vas pouvoir retirer tout ton argent? Bien sûr que non.
C'est pour ça qu'on a une solution, les CBDC.
Non.
Wow.
C'est quand même ça leur solution.
Mais quelle va être la différence à ce moment-là sur un exchange? Sur un exchange centralisé. Si l'exchange vient à avoir des pertes de liquidités, vient à être en négatif, est-ce que tu crois réellement que les 10 000, 100 000, 50 000 balles que tu as dessus, peu importe le montant, tu vas pouvoir les récupérer comme tu le veux, comme tu le souhaites. Et ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas vouloir retirer ton argent, tu vas avoir un petit message d'erreur. Oh, excusez-moi, on n'a pas pu prendre en charge votre demande. Vous pouvez réessayer plus tard.
Pendant 24 heures, c'est suspendu. 24 heures plus tard, tu reviens. Pendant 24 heures, c'est suspendu. Une semaine plus tard, pendant 24 heures, c'est suspendu. T'es comme, hey, ton 24 heures, ça fait une semaine.
Ça me fait penser à des bots de
trading. Le site est en maintenance. Le site est en maintenance, pour
c'est quand même dommage.
Tu sais, ça me fait penser à nos grands-parents. Tu parlais de l'argent qu'ils cachaient partout. Mais eux, quand les systèmes bancaires commençait à être plus gros et tout, ben, il n'y avait pas confiance.
Non, il n'y avait pas confiance. Ils avaient raison.
Ils cachaient ça partout dans les maisons. J'ai mon ami qui ont été justement tout ramassé parce que son grand-père est décédé. Ils ont trouvé de l'argent partout, dans les plafonds, dans les bas, mais il n'y avait aucunement confiance aux banques. Donc, c'est un petit peu le même principe. Mais qui se passe en ce moment.
Tu sais, quand tu rachètes une maison puis que tu veux la rénover, que tu défais tous les murs, puis tu te rends compte que tu as des piles de cash dans le mur. Yeah, nice.
Soit c'était soit c'était plusieurs générations qui ont vécu là, soit c'était un narcotrafiquant.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
mais c'est fou ce que tu dis parce que ils avaient raison de ne pas faire confiance, mais la technologie avance, et vu que la technologie avance, les gens utilisent cette technologie. Et ça devient normal, comme pour nous quatre, on a tous ouvert un compte de banque, peut-être qu'on avait 14, 15 ans, et c'était complètement normal. Mmh. Et on faisait aveuglément confiance parce que c'était cette technologie-là. Mais c'est qui le plus fou dans tout ça? Nous, pendant longtemps, moi, je rigolais, ouais, ils font pas confiance à leur banque et tout avant. Mais c'est qui le plus fou dans tout ça, finalement? Ton grand-père qui cachait du cash et qui l'avait liquide c'est sur vrai. Lui, ou les gens qui font confiance à la banque et qui sont finalement même pas capables de le retirer? Et pourtant, ces gens-là vont se moquer de ton grand-père. Mais qui avait le plus raison dans tout ça?
C'est vrai, c'est la même chose pour moi. J'étais comme, oh, pourquoi il y avait autant peur? Voyons les banques, là, c'est fort, blablabla, puis c'est fou.
Exactement. Puis maintenant, tu dois penser à ça sur un autre niveau. Ils vont commencer à mettre des puces dans ta tête, ils vont commencer à faire ci, ils vont commencer à faire ça, qui va devenir normal et les gens vont rigoler de ceux qui ont peur de ça. Mais qui sont les plus fous?
C'est fou, on
va pas. Ça, moi, ça me fait peur.
Yo.
Les puces? Ouais,
moi, ça me fait peur, mais je vais faire de l'argent avec.
Ouais. Avant les puces dans la tête, t'auras les CBDC pour le coup.
Ah oui,
et l'arrêt du cash.
Mais le CBDC, c'est leur meilleure solution parce que tu vas pas imprimer du CBDC. Donc, ils auront plus jamais ce problème de ben, monsieur, j'ai pas 5 000 $ cash. Non, parce que ça existera plus, le cash.
Ouais, mais donc, quand on parle d'imprimer, ils vont pas l'imprimer physique. Mais quand tu vas faire un prêt, t'imprimes l'argent aussi.
Ben, maintenant, imprimer, c'est juste appuyer sur un ordi.
Exact,
hein.
C'est ça.
Tu peux voir le plafond de dette des États-Unis et quand ils ont augmenté leur dette de je sais pas combien de trillions, ben, c'est simple. Tu faisais juste remettre à jour le site et tout d'un coup, t'as vu. Plafond de dette et il avait augmenté de quelques milliards, mais cet argent n'a jamais été physiquement imprimé. Ça a juste.
Exact.
C'est là. Là, après, c'est sûr qu'ils peuvent commencer à en imprimer et tout, mais c'est déjà complètement digital. Alors, le CBDC, ça permet de faire quoi? D'avoir tout sur une blockchain, un contrôle de malade mental, de reset l'économie à zéro et de s'assurer que plus jamais personne va venir te demander du cash que tu n'as pas. Parce qu'il n'y a plus de cash, c'est digital. Donc, le CBDC.
Et ça fait déjà quand même plusieurs années qu'on est dans une phase transitionnelle entre le cash et l'argent virtuel parce que on paie tous avec nos cartes, avec la Visa, mais la réalité c'est que t'as rien dans ton foutu compte là.
Les gens payent avec une carte, surtout au Canada et en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. En France, je sais que c'est pas comme ça. Vous devez avoir l'argent sur votre carte, mais pour ceux qui sont pas au Canada et aux États-Unis, on a des cartes Visa et Mastercard qui sont des cartes de crédit. En gros, des cartes de crédit, c'est quoi? C'est par exemple, tu as une limite de 5, 8 ou 10 000. On va dire que tu as une limite de 10 000. Eh bien, tu peux dépenser de l'argent que tu n'as pas sur une carte de façon digitale. Et si tu ne repayes pas cet argent-là après tant de temps, tu reçois des intérêts à payer. Soit en gros, tu es en train d'utiliser une carte digitale pour payer avec de l'argent que tu ne possèdes pas, que la banque ne possède pas, sur laquelle tu payes des intérêts qui est 100% digital. C'est quoi le plus gros scam? La crypto ou ta carte?
Wow, c'est vrai, hein? Puis en plus, t'en as qui prennent 2, 3, 4 cartes, 5 cartes. Ça va Canadian Tire. Ben, en tout cas, vous connaissez pas ça partout. Mais vous allez dans un magasin, ils vous offrent voulez-vous la carte de crédit de tel magasin? Voulez-vous la carte? Ils te l'offrent partout. Ils disent vous avez pas d'intérêt pour tant de temps. Ben oui, qu'est-ce que le monde font? Ils la max out. Après, qu'est-ce qui arrive? Les frais de malade après.
Puis la première solution des gens, quand ils viennent de l'amener à 10 000 $ et ils ne sont pas capables de la payer, est-ce que je peux monter mon plafond à 15 000? Mais ta barouette, ça n'empêche pas que tu as encore le 10 000 $ à payer. Puis ça, ils font juste s'empirer, s'endetter.
Ouais, c'est ça.
C'est comme ça que les plus gros. L'endettement, le niveau. C'est pour ça que le niveau d'endettement au Canada et aux États-Unis, contrairement à l'Europe et tout, est éclaté à cause des cartes de crédit.
C'est un des plus gros niveaux de stress aussi, l'argent à cause
On devait parler des frais et tout.
Ouais.
On parlera des frais sur le prochain épisode.
Exactement.
Comment on fait pour sauver des frais, Sam? Je me fais toujours abuser dans la décentralisation côté frais.
T'as mal au cul. Non, mais revenons pour vrai sur l'idée principale du podcast. Du fait est que tu vas vers l'ETF, tu ne détiens pas de asset. Maintenant que les échanges risquent de fermer un après l'autre, tomber comme des mouches, ben, tu veux pouvoir te décentraliser. Donc,
puis comme Mathieu l'a expliqué, comme les banques, tu ne peux pas garder ça là parce que tu ne le possèdes pas. On vient d'en parler pendant les 10 dernières minutes.
Donc la question, c'est quoi les échanges décentralisés? Comment être sécuritaire puis comment maximiser les frais?
Ma première chose, c'est que ce n'est pas nécessairement mauvais d'acheter sur un échange centralisé. Cependant, tu veux sortir éventuellement de l'échange. Moi, j'utilise beaucoup certains échanges juste pour mettre des ordres d'achat et de vente de façon automatisée. Parce qu'il n'y a pas encore de très bons échanges, plateformes de trading décentralisées pour faire ça. Et ceux qui existent, c'est un peu sketchy parce que tu dois garder ton wallet connecté en tout temps à la plateforme avec les autorisations activées. Donc, j'ai pas confiance. Moi non plus, j'ai pas confiance.
J'ai même pas confiance dans le fucking ledger qui est Bluetooth, man.
Ouais, moi aussi.
Je préfère lui avec le fil.
Ouais, moi aussi.
Ah non, mais c'est sécuritaire. Fuck you, man. Je te donne pas ma crypto.
Fascinant.
Ouais, c'est fascinant. Comment que j'ai pas confiance.
Ouais, moi aussi, j'ai besoin de celui avec le fil, Bluetooth. Mais tu vois, justement, tu peux acheter en P2P, tu peux acheter sur un échange, juste sors-le. Parce que si l'échange est en bonne santé, et tu viens d'acheter ton Bitcoin, tu vas pouvoir le sortir tout de suite. Le défi, c'est quand tu arrives en bull run et des situations où l'échange n'est plus en santé. C'est là que tu ne pourras pas le sortir. Parce que la réalité, c'est que, imagine maintenant, tu achètes sur un échange X et tu achètes un Bitcoin. Et en total, tout le monde sur cet échange-là a 10 000 Bitcoin. Mais eux, ils ont seulement 1000 Bitcoin en réserve. Mais toi, maintenant, tu viens d'acheter, tu sors tes 10 Bitcoin, ils vont pouvoir te le donner. Le défi, c'est quand les 10 000 personnes essayent de sortir leur Bitcoin et qu'ils en ont juste 1000. C'est là où ça ne marche pas. Mais si toi, tu achètes tout de suite et tu le sors, ça va fonctionner. Parce qu'ils ont 1000, mais ils n'ont pas 10 000. So, tu vas pouvoir le sortir. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est acheter sur certains échanges. En plus, si tu fais bien tes choses, il y a des échanges où tu vas pouvoir jouer et tout, puis sortir, et puis ça t'a coûté 0,5% de frais pour l'acheter puis le sortir. Donc ça, c'est correct. C'est juste que, comme on a dit, not your key, not your coin, je vais pas réexpliquer, je pense que vous avez compris que tu ne le possèdes pas vraiment. Là maintenant, disons, c'est sorti. Donc tu l'as pris sur ton échange, tu le sors. Tu le sors vers où? Tu peux le sortir vers, exemple, ton MetaMask, tu peux le sortir vers ton Phantom, tu peux le sortir vers ton Exodus, vers ton Ledger. MetaMask, cependant, qui devient de plus en plus sketchy, surtout avec ce qui s'était passé au Canada pendant les camionneurs à Ottawa et qu'ils ont bloqué des MetaMask. Un peu bizarre pour un wallet décentralisé.
Décentralisé, c'est ça.
Mais en tout cas, tu l'envoies vers des wallets décentralisés. Le truc ici que les gens ne comprennent pas, c'est que souvent les gens vont dire « Ouais, mais si je suis sur un wallet décentralisé, je dois payer des frais. » Ah, mais pourquoi les frais sont plus chers que si c'était sur Binance ou Kraken ou ci ou ça? Mais parce que les frais de Binance et de Kraken, c'est du fourrage. Ouais. Ils n'ont aucune raison de te charger des frais puisque tu restes sur la même plateforme et ils ne payent pas de frais. Parce que quand tu envoies, exemple, les gens vont dire tu envoies de crypto.com à crypto.com ou de Binance à Binance, hey, c'est sans frais. Ben oui, ça devrait déjà te sonner une cloche, ça veut dire qu'ils n'utilisent pas la blockchain. Oh, si c'est sans frais et que moi je t'envoie, exemple, j'envoie un Ethereum de crypto.com ou de Binance ou de Kraken, j'envoie mon Ethereum à Hugo et ça dit zéro frais parce que vous envoyez d'un utilisateur à un utilisateur. Mais zéro frais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font juste effacer le 1 Ethereum que je voyais sur mon téléphone et ils font apparaître 1 Ethereum sur le téléphone à Hugo. Il n'y a jamais eu d'échange, il n'y a rien qui s'est passé dans la blockchain.
Même chose comme si je te fais un e-transfer.
Exactement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de frais, parce que de base, une fois que tu es décentralisé, que tu sois sur un wallet, que tu envoies d'un wallet à un wallet, que tu envoies de ton échange vers un wallet, peut-être que tu es sur un wallet et tu swaps. Donc, tu t'en vas sur un échange décentralisé, tu veux transformer ton 1 Ethereum en je ne sais pas combien de polygones. Mais tu vas avoir ces frais à payer. Mais ces frais-là, c'est les frais de transaction parce que ça doit transiger à travers la blockchain. Qu'est-ce que vous devez comprendre, guys? C'est que la blockchain, c'est comme un train. OK? Et à chaque, dépendant la vitesse de la blockchain, à chaque minute, à chaque seconde, etc., il y a un wagon qui part. Donc, qu'est-ce qu'eux font, exemple, la blockchain de Bitcoin ou la blockchain d'Ethereum, etc.? Ils vont remplir le wagon et le wagon part. Ils vont remplir le wagon et le wagon part. Et toi, dans le fond, tu payes ta place dans le train. Si tu as déjà pris le train ou un avion, quelque chose comme ça, tu as payé ta place. En gros, tu payes ta place dans le train. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les frais vont augmenter ou descendre? Ben, c'est parce qu'il y a des heures de pointe. Donc, si tu es dans une heure de pointe ou dans une saison de pointe, comme pendant le bull run, il y a beaucoup plus de gens qui veulent rentrer dans le premier wagon. Et comment fonctionne la blockchain? C'est celui qui paye le plus cher prend la place. Donc, si par exemple, on est à une heure de pointe, on est dans une saison de pointe, on est en bull run, et tout d'un coup, il y a un maximum, on va dire, de 100 places dans le bloc. Il y a juste 100 places. Toi, Hugo, tu payes 10 $. Ils sont comme, OK, on va te mettre dans le wagon. Mais lui, il arrive tout d'un coup, JP environ en même temps, avant que le wagon part, et il paye 15 $. Et le wagon était plein. Devine qui se fait sortir du wagon.
Oui.
Toi. Et lui, il vient de mettre 15 $. Et là, tout d'un coup, Matt, il arrive et comme, non, 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 moi, je dois être dans le wagon, je dois faire cette transaction rapidement. OK, je vais payer 20 $. Qui vient de se faire sortir du wagon? Ben, JP. Alors, bye bye. Ils vont remplir le wagon. Ils vont remplir le wagon avec les... Comme ça, c'est de l'offre et de la demande. Il y a juste 100 places, exemple. Et ensuite, le wagon part. Mais ça part avec ceux qui ont payé le plus de frais. Et en fait, les gens réenchérissent sur les frais. C'est pour ça que les frais finissent par exploser. Parce qu'il y a un maximum de places. Ensuite, on s'en fout complètement si ta transaction, c'est 10 $ ou 100 millions de $. Ça, c'est un autre truc. Ouais, mais j'essaye d'envoyer 10 $ et ça me coûte 50 $ de frais. Ouais, mais envoie-le pas. Ou attends un autre moment. Reviens demain matin. Attends dans quelques heures. Attends que l'heure de pointe diminue. Comme ça, ça va te coûter moins cher à cause de ce que je viens d'expliquer, les gens qui réenchérissent pour avoir une place dans le premier wagon. Mais que ta transaction soit 100 millions ou 10 $, ça change rien. Une place dans la... Le wagon, c'est des codes. Donc, c'est pas comme si tu as besoin d'acheter deux places d'avion. Non, t'es un passager, t'as besoin d'une place. Que ça soit 10 $ ou 100 millions de $, c'est un code, une place, un frais. Après, si tu fais des transactions multiples, par exemple, tu décides que t'envoies un Ethereum et il va aller à trois adresses différentes. Ben oui, là, tu vas payer trois fois les frais parce que c'est trois transactions différentes, mais tu payes par transaction, que ça soit 10 $ ou 100 millions de $. Ça, c'est un autre truc que les gens ne comprennent pas. Maintenant, vous comprenez. La troisième chose, t'es pas obligé de partir dans le premier wagon parce que quand tu vas sur MetaMask et tout ça, ils te donnent un prix qui est le prix recommandé pour être pas dans les plus rapides, mais quand même assez rapide, ce qui fait que c'est assez cher. Mais tu peux aller dans paramètres supplémentaires et changer le frais que t'es prêt à payer. Et là, ça fait que si tu descends le frais que tu es prêt à payer, mais tu vas te ramasser, imagine que tu es dans une gare, mais tu vas te ramasser au bout de la file, tu vas te ramasser au bout de la queue à attendre parce que tu as mis, mis un frais moins élevé. Donc eux, ils te disent, exemple, un frais recommandé 40 $. Mais tu pourrais mettre 15. Mais OK, mais 15, tu ne vas pas être dans le plus rapide, tu ne vas pas être dans le rapide, tu vas peut-être être intermédiaire ou sinon dans le lent. Mais là, tu t'en fous, toi, si tu veux faire cette transaction et que ce n'est pas quelque chose de maintenant. Tu envoies 17 Ethereum de ton wallet à un wallet, tu t'en fous s'il arrive dans 6 heures ou dans 24 heures. Tu le fais et puis voilà, et tu viens de te sauver énormément de frais. Il faut juste faire attention à quelque chose. Quand il y a beaucoup d'achalandage, si tu mets trop peu de frais, là, ta transaction peut se perdre ou jamais partir. Mais il y a des différents sites où tu peux voir c'est combien le frais, puis tu peux voir c'est quoi le minimum safe. Donc, tu vas voir transaction rapide, transaction recommandée, transaction intermédiaire, transaction lente, sécuritaire. Puis tu peux juste mettre ça et puis tu viens de te sauver des fois 40 balles. À moins que tu veux faire la transaction maintenant. Mais sinon, si tu fais juste envoyer d'un wallet à un autre, tu fais ça et tu viens de te sauver plein d'argent et tu t'en fous, tu fais autre chose pendant que ça se fait. Et voilà comment ça fonctionne les frais.
C'est bon à savoir, je savais pas que ta transaction pouvait se perdre si tu mettais un frais tôt.
Ouais, ouais, va jamais partir.
Oh my God.
C'est comme, t'sais, genre, ben là, bro, comme... Les billets les moins chers sont à 10 $, les billets les plus chers sont à 50 et toi tu mets 5 $.
Ouais, bah, jamais partir, mais en même temps, c'est compliqué. Là.
Ça va jamais partir sauf si t'attends le Black Friday.
Ou t'attends le bull run. Le bull run. Ouais, alors, c'est comme ça que les frais fonctionnent. Et il y a vraiment des heures de pointe. Donc, voilà. C'est comme un train.
So, comment on fait pour payer le moins de frais possible?
Ben, pour payer le moins de frais possible en transaction, quand tu envoies d'un wallet à un autre ou tu fais du swap et tout ça, premièrement, ben, tu ne vas pas dans les heures de pointe. Et si tu googles, il y a plein de charts, là, ça te dit maintenant. Très utilisé.
Tu as même un site où tu as des wagons.
Ouais, tu as GasFizz, TX Street, tu en as plein qui te montrent littéralement c'est quoi. Et puis, tu vois, là, exemple, heure de pointe. Là, tu vois beaucoup de gens. Là, tu vois... en général, à telle heure, à tel moment, il y en a moins. Tu viens à telle heure, à tel moment, tu regardes s'il y en a moins, tu le fais. Après, comme je te dis, c'est sûr qu'il y a des saisons qui sont plus hautes que d'autres en général. En bull run, t'es en bull run. Donc, le truc, c'est de regarder, oui, premièrement, la saison. Ben, la saison, ça change rien. Tu peux pas changer la saison si tu vas pas attendre des mois pour faire ta transaction. Mais tu peux regarder si t'es à une heure de pointe ou pas dans cette journée-là ou dans les journées autour. Et après, tu peux tout simplement décider de ne pas prendre la transaction. La plupart du temps, la transaction recommandée, c'est pas la plus rapide, mais c'est rapide. T'as comme super vite, vite, intermédiaire, lance sécuritaire. Et la plupart du temps, quand tu le fais automatiquement, tu réalises pas que ce que t'es en train de payer, c'est pas le plus rapide, mais c'est quand même le rapide. Alors que si tu le descends intermédiaire ou lent, moi, pendant que le bull run, il y avait des transactions que les gens étaient en train de payer, on recommandait à 80$ là. Moi, j'ai payé 15$. Mais elle a pris 36 heures à arriver. Mais j'en avais rien à foutre parce que je l'envoyais d'un wallet à un wallet et j'avais pas l'intention de rien faire. Ben, c'était pas 36 heures là, j'abuse là. Mais c'était fucking long là. Comme littéralement, ça a pris toute la nuit. Je me suis allé me coucher et tout, ça a pris toute la nuit. Mais j'ai payé 15$ au lieu de 80. Ben, 20$ au lieu de 80. Donc, ça, c'est comme ça que tu vas pouvoir sauver aussi des frais. Et voilà.
Ça paraît, là.
Mais oui.
Ça paraît, même si tu te dis sur le coup 60 balles, OK, c'est chill, je peux mais le prendre, accumuler. Mais 60 par-ci, 60 par-là, ça fait quelques milliers par-ci et par-là.
Et puis, en plus, on a une formation incroyable qu'on a donnée au chalet à la dernière immersion et qui s'en vient en janvier dans l'académie sur les frais et tout ça. Et donc, vous réalisez à quel point 60$ à gauche, 60$ à droite, c'est sur 10 ans des centaines de milliers de dollars qui auraient pu être dans ton portfolio.
Yeah. Cool. Yep. So that's it. On se voit au prochain épisode. Guys, si vous n'êtes pas dans le groupe Facebook, rejoignez-nous dans le groupe Facebook.
Et soyez au prochain chalet parce que le dernier événement était absolument incroyable. Vous voulez être au prochain événement. Ça change complètement des vies. Alors sur ce...